chanteront le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Le merle
bonjour, j'ai le très grand plaisir d'accueillir à nouveau sur les ondes de Radio Galère dans l'émission Comme à Guerre un personnage, je dis ça, un personnage très officiel en son temps, qui déjà intervenu à l'antenne il y a quelques années puisque nous l'avions entendu à propos d'un phénomène qui se passait, qui est assez rare finalement, c'était la sécession, c'est-à-dire un État gros en taille qui se coupait en deux morceaux. Et qui ne se coupait pas tout seul, hein, puisque soyons clairs, il y avait des intérêts à ce que cet État explose, qui était donc à l'époque le plus grand État d'Afrique, je rappelle, le Soudan, donc à cheval entre l'Éthiopie donc, d'un côté et l'Égypte de l'autre. On en a fait un État plus petit, qui depuis a donné à l'Algérie l'avantage d'être aujourd'hui le pays le plus grand d'Afrique, ce qu'il n'était pas avant. Et puis, il semble bien, et c'est pour ça que j'ai eu plaisir et qu'il a accepté cette rencontre, de demander à Michel Rimbaud, puisque c'est de lui que je parle, ancien ambassadeur de France à Khartoum pendant plusieurs années, ancien ambassadeur de France dans beaucoup de pays de cette région, car il est, et c'est assez rare je crois dans la diplomatie, arabophone, et je pense peut-être, ça il me le dira, un peu amoureux de ces pays-là, à force, c'est la pratique, et ça c'est très bien, de nous expliquer ce qui se passait dans un autre pays qui est très très important aujourd'hui sur l'échiquier international. Il s'agit de la Syrie. Alors la Syrie, il a des attaches personnelles, dont il vous parlera peut-être avec la Syrie, et puis il a produit, il a coproduit plutôt un livre qui vient de sortir, que je vous signale, qui s'appelle « Syrie, guerre globale, fin de partie ». C'est aux éditions Delga et c'est paru donc au printemps de...
Non, au mois de... Au, la mi-septembre, à la mi-juillet, pardon.
Mi-juillet, voilà. Alors, cet été, donc
mi-juillet,
cet été.
Oui, oui.
Ah, donc il est en librairie, il mérite absolument d'être lu et c'est un livre un peu particulier, puis c'est pas un livre de Michel Rimbaud, mais c'est un livre sous la direction de Michel Rimbaud et d'un autre personnage qui va nous présenter, qui s'appelle Faisal Jalloul, et c'est un livre de contribution, il y en a 16 je crois au total,
oui.
Qui donne différents points de vue sur la culture, la politique intérieure de la Syrie, la politique internationale dans laquelle la Syrie se meut. Et en plus, et j'allais presque commencer par ça, entre le moment où ce livre est quasiment fini, c'est-à-dire vous avez tous rédigé vos parties, vous avez vous rédigé une introduction, une conclusion, etc. Je ne sais pas ce qui se passe dans le calendrier de l'éditeur, mais il ne sort pas dans le mois où vous avez fini de le rédiger. Et il se trouve que, et ça c'était en 2022, il se trouve qu'entre-temps, vous avez été obligé de dire, puisqu'il va sortir qu'en 2023, il faut absolument que je fasse un addendum, ce qui n'arrive pas très très souvent dans les livres d'histoire. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il s'était passé trop de choses entre le moment où les textes étaient finis et le moment où le livre allait être dans les librairies. Bon. Et puis, comble de l'ironie, mais en allant dans le même sens, vous avez même été obligé, au début de cette année, donc de faire un deuxième addendum à l'addendum, parce que l'histoire avait tellement avancé vite en Syrie que ça méritait de dire « ce livre est à jour », et ça méritait même de mettre en question le point d'interrogation qui est sur la couverture. Fin de partie, oui ou non ? Alors, est-elle finie ou n'est-elle pas finie ? Ça, on vous en parlerait plus savamment que moi. De toute façon, ça méritait de le poser dans ces termes-là. Donc maintenant, cette introduction faite, je voulais vous expliquer la genèse de ce livre, la sélection des auteurs et le pourquoi du moment.
Ah, c'est bon. D'accord.
Oui.
Mais écoutez, ce livre, donc, c'est 16 contributeurs. Ils ont été choisis, non pas au hasard, mais d'après leurs affinités supposées avec la question, et on avait de bonnes raisons de le penser. Bon, il y avait des co-auteurs, enfin des contributeurs français, mm-hmm. Il y a eu des Libanais et des Syriens, en fait, à mm-hmm. peu près à proportion égale dans les 16. Alors ça tombe pas juste, mais...
Et, c'était le souci, peut-être
Non, mais en fait, c'était comme ça. j'ai trouvé qu'au départ, c'était parti sur des Français et des Libanais, mais je pense que c'était Faisal Jelloul qui avait eu l'idée de faire un tel livre. Et puis, il m'avait demandé immédiatement de faire la direction, mais tout seul, enfin, de diriger, de coordonner l'ouvrage, puisque c'était une coproduction. Alors, j'avais dit oui, parce que c'est un ami pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et puis, après coup, un peu plus tard, j'ai trouvé que c'était équitable de le mettre sous la direction conjointe de Michel Rimbaud et de Faisal Jelloul, parce qu'on a souvent discuté de l'affaire, ça l'intéressait, et c'est lui qui avait eu, au fond, l'idée de publier un livre collectif. Je n'aurais jamais eu cette idée-là sur la Syrie, parce que j'ai beaucoup écrit sur la Syrie, des articles, j'en ai parlé dans des livres, etc. Mais j'aurais jamais eu cette idée-là, parce que j'ai participé à beaucoup de livres collectifs, et je sais que c'est une galère, littéralement. Et donc, finalement, j'ai participé à beaucoup, beaucoup de livres collectifs. Et je ne crois pas que je sois un contributeur en train de talonner comme ça, et exigeant et agaçant. Mais, disons, on sait toujours que sur le nombre, il y a toujours. Et puis, quand ça prend du retard, ceux qui ont écrit supportent mal l'idée que leurs écrits ne paraissent pas tout de suite et qu'ils ne comprennent pas que, même quand on a fait le manuscrit, que ça ne passe pas chez l'imprimeur comme dans une imprimante si on voulait faire une photocopie. Bon. Bref, alors donc ça traînait, donc, comme vous disiez, on a même changé d'éditeur. Dans le premier temps, c'était pas Delga, c'était un autre éditeur que je ne citerai pas pour son honneur. Donc, mais j'ai rompu les ponts avec le dit éditeur parce qu'il traînait justement. Et donc je suis entré en contact avec Delga, que je ne connaissais pas en tant que tel, mais je connaissais la librairie Tropique par contre, etc. Et j'ai eu connaissance, j'ai été en relation avec Émeric Monville, qui tout de suite s'est montré intéressé et qui m'a dit tout de suite, je prends. Alors donc, allons-y, prenons. Mais c'est vrai que ce sont les ennuis d'édition. Moi, je comprends ça très bien parce que ce n'est pas le premier livre que je publie. Alors, il y a la même chose. Mais j'avais rarement été aussi impatient parce que j'avais une pression des autres contributeurs quand même, oui, qui ne comprenaient pas. Et puis deuxièmement, parce que c'était un sujet qui, comme ça, qui était pour moi un peu que j'avais pris un peu en impromptu. Et je trouvais que c'est vrai que je m'inquiétais, étant donné que le premier éditeur m'avait mené en bateau pendant un an, je me demandais s'il ne fallait pas que ça recommence une deuxième année. Et en fait, c'est les contraintes de l'édition, je comprends ça très bien. Finalement, ça finit par sortir. Voilà, c'est ça l'important. Et puis, pour un sujet, c'est un sujet qui fâche éminemment, l'un des sujets qui fâche de l'heure. Je dirais que la Syrie est le mot même sert d'épouvantail à plein de gens. Et par conséquent, j'étais bien content de trouver un éditeur pour ce livre. J'en aurais trouvé un autre, mais quand même, c'est celui-là qu'ils ont fait un très bon ouvrage, ils ont été très coopératifs et très ouverts. Bon, et voilà, il n'y a pas de censure, je précise, ni d'éditeur, ni de ma part, ni de Faisal Jelloul. Les auteurs ont écrit ce que bon leur semblait. Il n'y avait aucune contrainte. Je crois qu'il y a eu une contrainte qui était automatique, mais qui venait de leur façon d'envisager le problème. Oui. C'est-à-dire que le respect, de prendre le contraire de la...
De la doxa.
Je dirais de la doxa, oui, de la vision de la doxa et de la perspective de la doxa. C'est-à-dire respecter l'État syrien, respecter son armée, son peuple qui souffre le martyr, qui a souffert et qui a beaucoup résisté, qui souffre toujours le martyr quand même, et de l'État syrien qui a résisté, qui a tenu bon, et par le fait même du gouvernement syrien de Bachar el-Assad, pour qui, je dois dire, j'ai beaucoup d'estime, parce qu'il a tenu dans des circonstances où beaucoup de chefs d'État n'auraient pas tenu et seraient partis en exil, comme un exil doré, et auraient retiré leur bille du jeu. Lui, il a tenu et avec beaucoup de courage, et je crois qu'il s'en sert, je crois qu'il aura, il sort, les Chinois lui ont montré qu'ils appréciaient qu'ils sortent la tête haute après les Russes, il y a lui les Chinois, cette visite à Pékin, et pour lui, je pense, un bel encouragement à mener le dossier syrien jusqu'à la paix et la reconstruction, ce qui n'est toujours pas un fait accompli, c'est justement l'objet du débat, et c'était l'objet de fin de partie. Parce que, je ne sais pas, si vous voulez, je peux préciser autrement, Cette guerre qui n'est pas une guerre civile, il n'y a jamais eu de guerre civile en Syrie, c'est pas vrai. Il y a eu des aspects qui peuvent. Il y a eu une guerre sainte, mais ce n'est pas de la guerre civile, la guerre sainte par définition. Et il y a eu une agression étrangère. C'était une agression globale, qui était une agression menée par l'Occident, notamment les trois membres principaux, les trois membres du Conseil de sécurité occidentaux, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, qui n'étaient pas du tout dans les coulisses, mais qui étaient à l'avant-scène et sur tous les aspects de la guerre. Ensuite, avec des alliés, bien sûr, tous les alliés des mouvements islamistes extrémistes, qu'ils soient issus des frères musulmans, ça c'était l'objet, le travail du Qatar, de les succéder, et la Turquie, et puis, ou bien des Wahhabites, c'est-à-dire de l'Arabie saoudite. Ils ont tous aidé et assisté cette agression. Ils ont été partie prenante, notamment dans l'appel à la guerre sainte. Et je dois dire que quand le premier appel à la guerre sainte a été lancé en 2000, je crois l'été 2012, je crois que moi je croyais rêver. Moi je connais bien la Syrie. S'il y avait un pays, disons, sur Terre, où la notion de faire une guerre sainte sur la Syrie, je ne dis pas que ce n'était pas une terre sainte, mais l'idée d'y faire une guerre sainte au sens où on l'entend, au sens fanatique du terme, ça me paraissait complètement hors du réel. C'est même pas surréaliste, c'était irréel. Bon, et pourtant, elle a eu lieu, et combien ? Alors donc, il y a eu plein de... C'était une guerre globale, parce qu'il y a eu, à un moment donné, enfin au départ, il y a eu jusqu'à 128 membres au groupe, quand il y avait le groupe des Amis de la Syrie, qui, dans la meilleure des logiques occidentales, rassemblait tous ses ennemis. Quand ce groupe s'est réuni, par exemple, à Marrakech en décembre 2012... Il y avait 128 États membres des Nations Unies, c'est-à-dire les deux tiers quand même. Alors c'est vrai, il y avait beaucoup de Fidji, de Caïmans, de Bermudes, avec leur triangle, enfin d'États perdus, je ne sais pas trop, au milieu de nulle part, et puis des États fantoches. Mais il y en avait quand même quelques-uns, des éminents, ou du moins qui se prennent pour éminents, comme la France, la Grande-Bretagne, les États européens, ont tous participé. Bon, alors... Je pense qu'il y a eu cette guerre-là. Et puis seulement, ce n'était pas un groupe très, très convaincu et très, très solide parce que, disons, trois mois après, il y avait une nouvelle réunion du groupe des Amis de la Syrie et il n'était plus qu'une douzaine. Alors ça avait sombré littéralement de 126 à 12 sans qu'on sache pourquoi. Je crois d'ailleurs que personne, et les intéressés eux-mêmes, ne le savaient pas. Mais je pense que la France, s'y trouvait toujours en tête, était toujours dans les départants. Voilà. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pourrais... Voilà. Donc, après, du point de vue du djihad, c'était quand même une réussite, parce qu'on dit qu'il y a quand même eu plus de 400 000 djihadistes, ce qui n'est pas rien, qui venaient quand même, il est à noter, alors pas forcément de pays dont on aurait pu penser, d'où on n'était pas étonné qu'ils participent au djihad, comme la Turquie, l'Arabie saoudite ou d'autres pays, mais 120 pays... plus de 120 pays, voire même plus que ça, oui, 120 pays, c'est-à-dire les deux tiers des Nations Unies ont participé ou envoyé des djihadistes. C'est-à-dire parmi les 400 000, il y a eu en moyenne 300 à 400 000 djihadistes avec des relèves. Des arrêts de service, après des remplaçants, il y a eu un flux continu à peu près, je ne les ai pas comptés, mais c'était à peu près que les sources convergent à peu près autour de 400 000, c'est une évaluation, puisqu'il n'y avait pas de contrôle d'identité dans ce genre d'obligation. Alors après, on passait, ça se confondait amplement, c'était les djihadistes... Ils ont appartenu à ce qu'on appelait l'armée syrienne libre, l'ASL, qui était une armée démocratique, ça va de soi, et qui combattait pour les droits de l'homme, contre le boucher de Damas, celui qui assassine son peuple, qui le gaze le cas échéant, enfin qui a tous les péchés, comme je dis, qui a les pieds fourchus hein, depuis fort longtemps. Alors, donc tout ceci, c'était une gigantesque escroquerie, mais elle a la vie dure, puisqu'elle a perduré jusqu'à maintenant, au moins en Occident. Alors, la Syrie n'a pas eu que des ennemis, Dieu merci. Elle a eu des alliés très, très vite, des alliés de poids. C'était la Russie, la Russie, dès 2011, c'est-à-dire dès le début de la guerre, après l'aventure libyenne où la Russie et la Chine n'avaient pas opposé de veto, s'étaient contentés d'émettre des réserves. Mais ça, les Occidentaux s'en fichent des réserves. En fait, ce qui compte, d'ailleurs, même s'il n'y a pas de résolution, même s'il y avait eu un veto, ils seraient passés outre. Mais en plus, il n'y avait pas de veto. Alors c'était vraiment le... Donc ils ont pu trouver tous les prétextes et avoir cette conduite atroce et criminelle qu'ils ont eue en Libye, c'est-à-dire détruire la pays, détruire la Libye, détruire le fameux fleuve artificiel de Kadhafi, qui n'était pas une légende du tout, mais une réalité, mais qui a été détruite. On a détruit les usines qui formaient des pièces détachées pour être plus sûr que ça ne se reconstruirait pas. Ensuite, on a saisi ses avoirs, soi-disant les avoirs de Kadhafi, qui étaient les avoirs libyens, par quelques centaines de milliards, des avoirs gelés, mais comme on sait, les avoirs gelés sont des avoirs volés, et jamais ils ne réapparaissent. Ils réapparaissent, c'est pas perdu pour tout le monde, mais c'est perdu pour l'État qui les perd. Et donc Kadhafi a subi, avant de mourir, quand il a été pris, traqué, avec l'aide des services français d'ailleurs, Kadhafi a subi le sort que l'on sait, que je ne rappellerai pas, parce que c'est sordide. Oui. Et c'est indigne, mais c'est indigne par ceux qui l'ont, c'est indigne pour ceux qui l'ont commandité. Alors, donc, quand il y a eu l'affaire de Syrie qui s'est profilée, le printemps arabe, entre guillemets, le satané, comme je dis toujours, le fichu printemps arabe de Damas, la mi-mars 2011, c'est-à-dire tout ça se produisait en même temps que l'affaire libyenne, c'est vrai que la tentation était grande de reproduire, disons, un style d'opération qui avait été réussi du point de vue de l'Occident et des islamistes, c'est-à-dire la destruction de l'État, le dégagement de son chef d'État, même son assassinat si besoin était, et tout le diable et son train, et empêcher la reconstruction et la suppression de l'État et son saucissonnement en 4 ou 5 États. En Libye, il y a eu jusqu'à 4 à 5 pouvoirs en même temps, pendant un moment, qui se bataillaient. Il y en a toujours, il n'y a plus jamais eu de pouvoir unique, il y en a toujours au moins deux qui se bagarrent. Dès qu'il y en a un qui est légal, il y a l'autre qui se manifeste et qui, je l'ai vu le premier, le pouvoir. Bon, donc finalement... En Syrie, il n'y a jamais eu ça, ça a raté complètement, et même militairement, ça a raté complètement, parce que, alors, quand le premier projet de veto, disons, euro-arabe, parce qu'il y avait les Européens, nos amis Européens, y compris la France, la Grande-Bretagne, et tous les Européens, mais y compris les pays arabes, tous les pays arabes du Golfe notamment, disons, ont été complices dans l'affaire. Et donc le premier projet de résolution s'est atterri en octobre ou début novembre 2011. Il y a eu, par surprise, le premier veto russo-chinois qui a mis un halte là. Non pas à toute action armée, ça se saurait, parce que c'est bon, mais sous égide des Nations Unies. Du moins, ça serait des actions illégales, celles qui auraient lieu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça n'a pas empêché des interventions armées. Je viens d'en parler, je n'y reviens pas. Je pourrais y revenir plus tard. Et d'introduire une longue guerre en Syrie qui en est dans sa 13e année bien engagée. Ça fait 13 ans et demi que ça dure. Et on ne voit pas exactement le bout jusqu'à maintenant, mais on aperçoit quand même la fin. Et il y a une partie des choses qui a été réglée. Et dans le contexte mondial, je crois qu'on entrevoit la fin. Alors, je pense que quand on a décrit ça, c'est vrai qu'il y a plein de ressentiments. Il y a eu l'effet de la propagande, la presse, les médias occidentaux qui ont une conduite odieuse. Il y a eu un support ferme et ouvert de tous les États occidentaux, notamment des trois membres permanents du Conseil de sécurité, et qui, je pense, au Conseil de sécurité, ont pris l'habitude, en signe de mépris ou de vertu outragée, de quitter dès qu'il y avait le délégué syrien, l'ambassadeur Bachar al-Jafari, qui était un grand ambassadeur et un homme remarquable, qui est maintenant ambassadeur à Moscou d'ailleurs. Et je crois qu'il a dû en souffrir, il a dû souffrir le martyr. C'était même avant le Covid, hein, ça. Mais pendant des années, il a dû subir quand même, défendre le cas de la Syrie au Conseil de sécurité contre tous les assauts, parce qu'après, il y a eu je ne sais combien de tentatives de faire passer de nouvelles résolutions. À tous les coups, un veto russo-chinois, en général. Bon. Et... Par conséquent, donc, ça a été efficace quand même, ça a permis de façon continue, à partir de 2011, octobre-novembre 2011, jusqu'à maintenant, mais enfin plus précisément toutes les premières années de la guerre, de s'opposer à toute intervention militaire sous couvert de l'OTAN, comme ça avait eu lieu en Libye, donc, et s'opposer à la destruction de l'État syrien. C'était ça la résultante. Alors, je crois que cette alliance russo-chinoise, après, en 2015, pour la Russie, ça n'était pas terminé, puisque, comme on sait, militairement, la guerre sainte ou l'armée libre syrienne, avec tous ses soutiens, il y avait un tel soutien dans la communauté internationale ou celle qui se présentait comme telle, que c'était un encouragement au crime. Et donc, finalement, cette guerre s'est poursuivie, et c'est vrai que le territoire sous souveraineté du gouvernement, contrôlé par le gouvernement, s'est rétréci comme une peau de chagrin, puisque Alep avait été prise, la deuxième ville, la capitale économique de la Syrie, la deuxième ville, la capitale économique de la Syrie, je dis bien, et un des foyers historiques en Syrie, mais également tout l'Est syrien, la rive nord, la partie le sud. La Syrie était cernée de tous côtés. Et finalement, on se demandait ce que la dernière étape, c'était la prise de Damas. Les rebelles, enfin les djihadistes, quand on va à Damas, moi je suis allé dans des appartements, d'ici on apercevait les djihadistes quand même, quand on était dans le cœur de la ville de Damas, on apercevait le carrefour où était le premier avant-garde des djihadistes comme qui était là. Les environs de Damas ont été saccagés, littéralement, ça ressemble à une zone de bombardement, ce que ça a été d'ailleurs. Bon, et c'était la prise de Damas. Alors, qu'est-ce qu'il y a au départ, la Syrie a disposé de deux alliés dès le début. Ça a été l'Iran et puis deuxièmement le Hezbollah libanais. Bon, ça a été les deux alliés dès le début. Et la Russie, politiquement. Mais militairement, donc, c'était le Hezbollah et des conseillers iraniens. Mais ça ne suffisait pas, parce qu'il y avait une avancée lente, mais sûre, inexorable, et ça paraissait quelque chose d'irrésistible, puisque ça avait réussi dans tous les pays arabes. Le printemps arabe avait réussi au dégagement, j'irais, de tous les chefs d'État. Alors on disait Bachar el-Assad. Du côté français, on ne doutait pas. D'ailleurs, il y a un ambassadeur qui a été viré pour ça, parce qu'il prévoyait que Bachar el-Assad allait tenir. Et il disait, non, je vous assure, il est populaire, etc., etc. Et en fait, on lui a dit, écoutez, vous êtes deux choses une, il faut ou vous changez d'analyse de la situation, ou vous changez de métier. Et donc, il a préféré, il n'est pas bête, il ne voulait pas changer de métier à l'époque, il a changé d'analyse. Bon, c'est un peu, je prends ça à la rigolade, mais je caricature, mais il y a beaucoup de ça, parce qu'il avait, il s'était fait une forte réputation d'ambassadeur qui tenait le coup, qui avait résisté, et qui publiait au départ des analyses qui étaient une analyse d'ambassadeur, quoi, et qui étaient sérieuses et bien documentées. Et puis, quand il a vu l'évolution des événements, très vite, il a paniqué, etc. Il a continué à dire ça, puis il a vu qu'à Paris, ça ne plaisait pas. Et il a eu l'ultimatum, ne lui a pas été posé dans ces termes, peut-être, mais ça revenait à ça. Et le résultat, ça a bien été ça. Il a changé d'analyse. Et comme monnaie dans quoi, il a pu poursuivre sa carrière, mais pas en Syrie. Bon. Alors, il a changé de poste, parce que le poste, d'ailleurs, on l'a supprimé.
Il n'y a plus de
poste. Oui, quand on veut qu'un problème n'existe plus, on supprime. Puisqu'on pense que ce sont les ambassadeurs et les diplomates qui sont des imbéciles et que les chefs d'État sont seuls à savoir. Donc quand les chefs d'État, en l'occurrence à l'époque, il y a eu Sarkozy et puis, Hollande, et puis après l'illustre Macron, comme les chefs d'État avaient décidé que la Syrie allait perdre, que Bachar el-Assad allait dégager, je crois qu'ils ne le disent plus maintenant, ils le disent à voix basse, enfin ils l'ont dit longtemps, il va dégager, malgré toutes les apparences. Donc, ils pensaient que les diplomates ne pigeaient rien du tout. Alors, en conséquence, comme ça, comme il n'y avait plus d'ambassade, il n'y a plus d'ambassade à Damas, il n'y a plus de lycée. On avait une coopération exemplaire dans le domaine de l'enseignement, de la recherche administrative, de la réforme administrative, je veux dire, un peu dans tous les domaines, dans l'archéologie. On avait plusieurs domaines qui étaient des domaines maîtres. Et il y a un lycée français à Damas, le lycée Charles de Gaulle, qui avait été fermé impromptu, sans tambour ni trompette, ou plutôt avec beaucoup de tambours et de trompettes pour dire « on est victorieux parce qu'on a fermé ». Mais il y a un bénévole qui est revenu, un ancien directeur qui est revenu, qui l'a remonté et qui l'a fait vivre jusqu'à maintenant, le lycée Charles de Gaulle. On a pu constater qu'il scolarisait malgré tout, malgré le gouvernement français, plusieurs centaines d'élèves qui étudient, qui sont syriens ou étrangers, ben enfin syriens pour beaucoup, qui étudient au lycée Charles de Gaulle. Alors donc, voilà. Ça, c'est...
Vous avez vu ça de vos yeux?
J'ai vu d'autres vidéos parce que j'ai fait, oui, on a été au mois de mai, on a été en Syrie avec l'association d'amitié France-Syrie. Je dois dire qu'était une association qui était ce qu'elle était, quoi. Bon. Et moi, j'en étais membre, mon épouse, j'en étais membre depuis un petit moment. Mais c'était désolant parce que c'était une association d'amitié qui avait ceci de spécifique, qu'elle ne produisait jamais de signaux d'amitié. C'est embêtant pour une association d'amitié. Et j'avais proposé à plusieurs reprises qu'on la transforme en association d'inimitié. Bon, mais enfin, bon, c'est pas ce qui m'aurait paru beaucoup plus réaliste. Et au moins, ne trompons pas le public. Mais enfin, bon, je plaisante. Mais enfin, on y a été. C'est un beau geste parce qu'on on a eu une délégation. On a été reçus comme des rois, on a pu voir la situation sur le terrain, qu'à Damas malheureusement, parce qu'il y avait 3-4 jours de partie officielle, mais on a vu tout un certain nombre d'officiels, on n'a pas vu le président Bachar el-Assad, parce qu'on est tombé dans tout un remue-ménage actuel, hein, c'était il y a 3 mois, 4 mois. Et donc, mais il y avait déjà du côté des Arabes, des Saoudiens, il était je ne sais pas trop où, il y avait des tas de mouvements diplomatiques dans tous les sens, et donc ça pas bon. Et puis il n'était pas forcé de nous recevoir. Recevoir une association française, c'est vrai que ça ne s'impose pas, étant donné la façon dont la France, globalement, dans toute sa grandeur et sa majesté, s'était comportée. C'est vrai que moi, j'aurais été le président syrien, j'aurais pas trop fait de cadeaux. Les Syriens, on doit dire, c'est un peuple qui est aimable, c'est un peuple qui est civilisé, profondément civilisé, qui est tolérant. Il est tout ce qu'on ne lui prête pas. Il a aucun des défauts qu'on lui prête et il a toutes les qualités qu'on ne lui prête pas forcément, mais que lui prêtent tous ceux qui connaissent en profondeur le pays et qui veulent bien être objectifs. Donc, on a été non seulement bien traités, bien reçus, bien accueillis. On a eu des entretiens avec des responsables syriens. Collectivement, il y a eu un grand raout organisé par l'Institut diplomatique. Et donc, on a été reçus vraiment comme des pachas. Et pour ceux qui venaient pour la première fois en Syrie, ils étaient bluffés littéralement. Et de voir que la ville, quand même, continuait à vivre. La situation des Syriens est atroce, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus à boire, ils n'ont plus de mazout, ils n'ont plus de carburant. Mais il y a plein de voitures qui circulent quand même dans les rues, ils font une bonne figure. La monnaie syrienne a été balayée par les sanctions sur le dollar. C'est plus des portefeuilles qu'il faut, c'est des valises pratiquement. Dans tous les pays qui souffrent d'hyperinflation, j'ai même vu un endroit, je crois bien, où on pesait les billets, on ne les comptait même plus. Il y a le compteur de billets qui défile jusqu'à 100, 1, 2, 3, 4, 5, parce que c'est tous comptés par milliers de livres syriennes. Je crois que la livre syrienne a été divisée par 20 ou 30, quelque chose comme ça. Notamment, non pas du fait de la guerre, mais du fait, à partir du moment où la guerre a été gagnée politiquement et militairement, c'est-à-dire, bon, à la suite de l'intervention russe, très vite l'intervention russe avait rétabli, je dirais, la situation militairement, avec l'armée syrienne qui avait quand même tenu 4 ans et demi toute seule. C'est pas une armée alaouite, contrairement à ce qu'on dit. Les alaouites sont représentés comme ils sont dans la société syrienne, c'est-à-dire c'est 8 ou 9% de la population, donc c'est des musulmans chiites. Mais disons, il y avait à peu près quelques pourcents de chrétiens, par exemple. Mais il y a aucun ostracisme. C'est pas il y a une laïcité à la syrienne. Je crois qu'il vaut bien la laïcité, comme je dis toujours, aigrelette à la française, au petit père Combes, c'est-à-dire la religion, etc. Il n'y a pas de mention religieuse. Il n'y a jamais eu de mention religieuse sur les passeports syriens. Les Syriens ignorent souvent, ils ont des amis de leurs des voisins, des amis, etc. Souvent, je jure qu'ils parlent par l'expérience, qu'ils ne savent même pas de quelle religion ils sont. Et les Syriens sont tous religieux, donc ils ont une religion. Alors ils peuvent être chrétiens, ils peuvent être catholiques, protestants. Il y a les multiples églises orientales. Ils peuvent être, y compris, il y a des restants de la communauté juive qui dont les biens sont conservés. Les synagogues sont entretenues. Il n'y a plus que quelques familles juives, je crois, à Damas. Mais tout ça, il y a une tolérance qu'on voudrait bien voir à l'égard des musulmans, d'ailleurs, par exemple, ici. Hein, bon, même dans la France, le pays des Lumières et des droits de l'homme. Alors, par conséquent, je pense que, en tout cas, il y a eu le rétablissement de l'autorité de l'État par l'armée syrienne, qui est une armée de conscription. Ce n'est pas une armée de professionnels, c'est une armée de conscription. Et comme il arrive souvent, c'est vrai que c'est tout le peuple syrien qui a payé, parce que les élites, comme on sait, dans plein de pays, c'est un phénomène, on trouve toujours un subterfuge pour qu'elles ne participent moins que, plutôt moins. Je n'accuse pas tout le monde, c'est injuste, hein. Mais c'est vrai que il y a eu, c'est les classes, ça, c'est la population, la participation populaire qui a été, y compris dans l'armée, qui a été notable, parce qu'il y a plus de simples soldats que d'officiers, c'est vrai. Mais enfin, quand même du point de vue social, je ne fais pas de procès d'intention, mais je pense quand même que parmi tous les mouvements d'émigration qui a été provoqué, alors ici, je sais qu'on, par exemple, même hier soir, là où j'étais, on porte sur l'émigration, même actuelle, venant des pays arabes, notamment de la Syrie, un regard qui est haut en disant c'est des gens qui cherchent fortune ailleurs, tout simplement. C'est vrai, peut-être pour une vie meilleure, mais en Syrie, il y a un aspect tout à fait, il n'y avait pas de tradition d'émigration des élites, comme au Liban, par exemple. Il n'y avait pas de tradition. Les soins médicaux sont toujours gratuits. C'est un des systèmes mondiaux, je pense, de santé les plus perfectibles, les plus parfaits et les mieux au point qui existent dans le monde. Et tous les soins étaient gratuits totalement, même les soins contre le cancer, contre des maladies de longue durée, etc. Tout était gratuit. Tout est toujours, parce qu'ils ont reconstruit un petit peu quelques hôpitaux. La production des médicaments qui avait été complètement stoppée a recommencé. Bon, mais tout ça, le système éducatif était gratuit, tout était gratuit. Tous les produits de base, le pain, les légumes, les machins étaient subventionnés. Donc, étaient subventionnés. Et évidemment, l'État, au fur et à mesure, se voyant privé de toutes ses ressources, a dû faire cesser tous ses avantages. Le système de santé a été réduit par des attentats, d'abord. Hein. Le principal centre de médical anticancéreux dans la région d'Alep a été pulvérisé par des explosions lancées par les djihadistes, et c'est la guerre sainte. Ensuite, il en était de même pour plein d'installations, d'infrastructures médicales, scolaires, etc. Les transports, tout a été endommagé et détruit. Beaucoup de choses ont été détruites. Alors, Damas a été touché beaucoup moins que Alep. Alep a été visé parce que c'était une ville historique et symbolique, et encore une fois, la capitale économique. Et puis après, dans le nord de la Syrie, Alep a été, une bonne partie de la ville a été occupé par les djihadistes, soutenus par la Turquie, le Qatar et par tous ces groupes terroristes qui étaient soutenus et parrainés et financés par le Qatar et la Turquie notamment, et qui s'en vantaient à l'époque. Alors, le rêve du père Erdogan, de M. Erdogan, était de promettre, l'année prochaine, nous allons prier à la mosquée des Omeyyades à Damas. Parce que, le parti au pouvoir, le parti de la justice et de l'égalité, qui est au pouvoir à Ankara, on l'oublie trop quand même, si vous voulez le dire crûment, c'est les frères musulmans, c'est la branche turque des frères musulmans, et donc ils suivaient la technique qui avait eu cours dans tous les pays arabes, et donc c'était le djihad. Quant au Qatar, il avait été mandaté par l'Occident pour contrôler tous les financements qui lui étaient donnés par l'Arabie Saoudite et par d'autres pays. Et donc, d'ailleurs, Ahmad Ben Jassem, qui était l'ancien premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari, avait été vidé à un moment donné, et il a été craché sa bile et sa vengeance, je dirais, à la BBC, dans des médias occidentaux, ou à Al Jazeera, dans des grands médias pan-arabes, pour dire combien il avait été chargé, j'étais chargé de la coordination de l'usage des fonds, c'était moi qui gérais, c'était le Qatar qui gérait, et c'était moi particulièrement, et puis on m'a ôté ça, Il disait la Syrie, c'était une proie, mais une proie qui nous a échappé. Voilà, c'est ça. Alors donc, les Russes sont intervenus en 2015, en septembre 2015, et avec assez peu de moyens, mais des moyens intelligents, donc à la fois des forces qui étaient très très modestes, y compris une force aérienne, qui était, parce que je crois que c'est une cinquantaine, une soixantaine d'avions. Et ils ont repris, ils ont aidé l'armée syrienne, qui a bien tenu le coup, qui avait tenu le coup pendant 4 ans et demi seul, avec l'aide d'éléments du Hezbollah, très très nettement, et un peu d'aide iranienne, des conseillers iraniens, qui servaient de prétexte à Israël pour bombarder la Syrie, déjà quotidiennement. Alors donc, les Russes ont aidé le gouvernement syrien à rétablir son contrôle et sa souveraineté sur une bonne partie du territoire syrien, à l'exception de la partie nord, donc il y avait la partie dans le voisinage d'Idlib, c'est-à-dire qui frôle la banlieue d'Alep, qui était occupée par des djihadistes, qui le sont jusqu'à maintenant, sauf qu'ils ont reculé un peu, mais Idlib est toujours sous contrôle des djihadistes, et ça servit d'espèce de bac de ramassage pour rassembler tous les accords de conciliation qui, au fur et à mesure de la reconquête de la Syrie par l'armée légale syrienne, des accords étaient signés et des solutions alternatives étaient proposées aux djihadistes de se rendre et de déposer les armes et puis de reprendre la vie s'ils n'avaient pas de sang sur les mains, s'il n'était pas prouvé qu'ils avaient du sang sur les mains, ce qui était possible d'ailleurs, pour certains d'entre eux. Mais pour d'autres, on leur disait, vous pouvez choisir de rentrer sans vos armes, mais d'aller vers la destination de votre choix. Petit à petit, il s'est avéré que le choix, c'était de se rassembler à Idlib pour reconstituer une espèce de plateforme, puisque, entre-temps, l'État islamique qui avait surgi dans le nord de la Syrie à partir de 2013-2014, l'État islamique était né en Irak et qui s'était répandu en Syrie, dans la rive est de l'Euphrate et la région de Palmyre et tout l'est syrien. Cette force donc avait pu prendre possession du territoire, mais elle a dû se replier donc devant l'avance des troupes syriennes, à l'exception donc la région d'Idlib et le ruban de territoire où la Turquie rêvait de faire une zone de sécurité soi-disant pour se protéger non pas des djihadistes puisque c'était eux qui les finançaient et qui les parrainaient et qui les encourageaient et qui les armaient et qui leur servait de base arrière, mais ça servait, c'était aussi une base arrière, c'était un prétexte pour demander une zone de sécurité. Et la zone de sécurité était dirigée, oui, non pas contre les djihadistes, puisque c'était eux qui étaient les parrains, mais contre les Kurdes, parce que dans la bagarre, il y a des Kurdes en Syrie, mais il y en a historiquement. Saladin, par exemple, était un Kurde. C'était un héros de la Syrie. Mais tous ces Kurdes se sont, comme on dit, noyés ils ont été absorbés au fil des siècles, depuis 1000 ans, dans le tissu national syrien. Et c'est pareil, on s'est dit, on ne peut pas les distinguer. Et ils sont répartis sur l'essentiel du territoire. Il y en a qui gardent l'essentiel, qui gardent une partie de mémoire, disant ma famille, vaguement, d'origine kurde, mais ils n'ont jamais eu de revendications, rien du tout. Les seuls qui ont pu avoir des revendications, c'est ceux qui étaient réfugiés, qui avaient quitté la Turquie à l'époque contemporaine et qui étaient persécutés et qui venaient chercher l'asile politique en Syrie. Et quand ils ont reçu l'asile politique en Syrie, donc dans la région nord, c'est là qu'ils ont décidé que ce serait le Rojava, c'est-à-dire en kurde, je crois que ça veut dire la zone, c'est le Kurdistan occidental, la partie la plus occidentale du Kurdistan. Moi, j'ai fait un article là-dessus en disant que le Rojava n'existe pas parce que j'ai regardé tous les projets au démantèlement de l'Empire ottoman, tous les projets d'État kurde, ça ne touchait jamais la Syrie. Et je sais que tous les Kurdes se sont installés, dans cette région. Il y en a eu, on ne peut pas le nier, mais c'est une minorité. Ils ont créé un mouvement qui s'appelle les Forces démocratiques syriennes. Mais on dit que c'est les forces kurdes. Ils ne sont que minoritaires, ils ne doivent pas représenter plus de 20%, y compris de l'effectif de ces forces démocratiques. Les autres, c'est des Arabes. Et donc, les Kurdes sont très minoritaires. Et encore une fois, ils sont venus en Syrie au temps de Hafez el-Assad, qui leur a donné l'asile politique. Moi, j'étais un directeur de l'OFPRA pendant 3 ans. Je suis bien placé que les gens qui demandent le statut de réfugié politique, ils n'ont pas la nationalité, et donc ils deviennent pas, par exemple, français. Par exemple, en France, c'est dans tous les pays comme ça, le statut de la Convention de Genève. Là, les gens qui s'installaient en Syrie ne donnaient pas droit à la nationalité syrienne, donc ceux qui disent que ce sont des Syriens, c'est des réfugiés politiques qui ont trahi leurs engagements, puisqu'ils s'étaient engagés, en général, à ne pas avoir de revendications territoriales en Syrie. Alors, ils ont fait exactement le contraire, à la faveur du désordre qui régnait, finalement, bien évidemment, dans l'État syrien, où ça donne des idées à ceux qui n'en avaient pas. À partir de 2015, donc il y a eu la libération du territoire, et puis on est arrivé en 2018, où la reconquête du territoire, donc il ne restait plus que ces deux, la bande nord, qui appartient notamment autour d'Idlib, où sévissaient encore tous les groupes des gros restants de groupes islamistes, et de l'autre côté, la rive est de l'Euphrate, qui petit à petit a été contrôlée non seulement par les forces séparatistes kurdes, mais avec des forces américaines. C'est là que les Américains ont commencé petit à petit à s'implanter et à entreprendre l'occupation. Alors, ce n'est pas une occupation massive comme ça, mais suffisamment avec quelques bases. Il y en a, quand on dit des bases américaines, ce n'est pas forcément des grands établissements, mais il y a des petits noyaux, des petites, des grandes. Il y a la base de Ettanaf au point triple, et ils cherchent seulement à verrouiller la frontière de la Syrie pour la coincer du côté intérieur, continental, la couper notamment de l'Irak, la couper de la Jordanie, et donc de tenir la base de Ettanaf, c'est le point triple frontalier, et c'est ce qu'ils sont en train de fortifier. Alors après, ce que font les Américains, c'est pas du tout innocent. Il y a eu toute la guerre des sanctions qui a été mise en place par le bon président Obama, qui est le responsable quand même de tout ce carnage en Libye, dans tous les printemps arabes. C'est Obama qui est le responsable, il ne faut pas l'oublier. Bon, et puis son compère Joe Biden, qui était son vice-président à l'époque. Et donc, je pense que après, c'est d'abord il l'avouait lui-même. Je le dis toujours que c'est le conseiller pour les affaires du Proche-Orient, du Moyen-Orient d'Obama, c'était un certain Robert Mallet, qui est le conseiller pour le Proche-Orient et le Moyen-Orient du président Obama. Et c'était le fils, incidemment, c'était le fils du fondateur d'Africasie en France, Simon Mallet. Et alors c'est son fils, Robert Mallet, qui est donc américain, et qui avait ses fonctions auprès du président Obama. Et c'est lui, c'est ce Simon Mallet qui était en visite en France, et il avait dit dans une conversation, puisque c'est des propos publics, que tant que l'Amérique n'a pas de carte suffisante pour imposer une situation de son choix, disons en Syrie, eh bien elle préfère maintenir et entretenir une guerre sans fin. Une guerre hybride, en quelque sorte, sans issue comme ça, mais même si ça doit servir au réarmement ou à l'armement de Daesh. Donc on ne peut plus. Bon, Daesh, de notoriété publique, la deuxième ou troisième ou quatrième armée de l'Amérique, c'est une armée de l'Amérique. Il n'y a jamais eu de combat. La raison d'être de l'occupation américaine, c'était de combattre Daesh. Moi, je ne connais pas un seul combat qui ait eu lieu entre Daesh et les troupes américaines d'occupation, ou plutôt vice-versa. Jamais, pas un seul. Et donc, je pense qu'ils se retiraient sagement. Quand les Américains disaient « on voudrait », je pense, « allô, on voudrait bien que, et que, et que », eh bien, dit « oui, monsieur, je vais le faire tout de suite ». Et je pense que c'est Daesh était ça. Alors, Daesh... c'est ça, oui. Donc, finalement, la guerre a continué sous des formes qu'on connaît. Ça a été donc le flot des sanctions. Mais ceci étant, les sanctions avaient commencé dès le printemps 2011, puisque je crois que dès le mois de juin-juillet 2011, les États-Unis et l'Union européenne, qui sont les deux pères fouettards de la communauté internationale, les deux seuls ensembles, je dirais, ou pays ou forces à faire des sanctions sur le reste de l'humanité, c'est eux. Donc, ces deux entités, donc les Américains en tête, bien sûr, et puis l'Union européenne comme un toutou qui suivait docilement, donc ont multiplié les trains de sanctions, comme on dit, dans tous les domaines, mais c'était avec une précision qui était maniaque de sadique, quoi, dans tous les domaines, systématiquement, et train après train. C'était pire qu'à la gare Saint-Lazare, le trafic des trains de sanctions. Il y en avait, c'est vrai, il y en avait jusqu'à maintenant. Il y en a encore maintenant. C'était les sociétés, les personnes, les militaires, les civils, les conseillers de Bachar el-Assad, Bachar el-Assad lui-même, la femme de Bachar el-Assad lui-même, les enfants de Bachar el-Assad. Je crois que le chien de Bachar el-Assad, il n'avait pas le droit d'aboyer sans l'autorisation de l'Amérique, sans une dérogation. Enfin... Et comme on sait, le jeu de l'extraterritorialité. Après, il y a eu la loi César. Enfin, on connaît, je ne vais pas vous faire... Mais, alors, c'était doublé, toutes ces sanctions qui avaient pour but d'étrangler la Syrie, le peuple syrien, et de créer un mécontentement tel. D'abord, de tuer l'État syrien. Alors, j'ai dit, il y avait un politicide pour le tuer politiquement. Il y avait un ethnocide pour tuer, disperser le peuple syrien. Tous ces réfugiés, oui, c'est là que je faisais une allusion... aux réfugiés, c'est pas qu'ils partent à l'aventure pour leur bon plaisir, ils partent pour plusieurs raisons, suivant qu'ils vont en Turquie, qu'ils vont au Liban, où ils sont nombreux, ça se pose différemment, ou bien en Europe, ou bien dans la lointaine Amérique, il y a des motivations diverses. Quand ils vont au Liban, c'est temporaire, c'est parce qu'ils sont chassés, et puis ils voulaient avoir, pas être rendus prisonniers, et avoir éventuellement des façons, quand il n'y avait plus de ressources en Syrie, de le faire passer depuis les banques libanaises. Il y avait de l'argent syrien au Liban, dont 45 milliards, je pense, sont disparus, ont été confisqués, avec tout l'argent des Libanais, d'ailleurs, par l'Occident. Donc on n'en reverra jamais la couleur. Mais l'émigration libanaise, c'est vrai que l'émigration syrienne au Liban, c'est vrai que ça devait faire 1 600 000 personnes, je crois bien, si les chiffres sont exacts. C'était considérable pour la population libanaise. Mais Syrie-Liban, c'est le même pays au fond. Hein. Il y a des tas, tous les gens de la famille des deux côtés, on se demande, c'est même pas une immigration étrangère, contrairement à ce que disent certains Libanais. Bon, mais globalement, donc cette immigration, c'est des gens qui vont revenir. Et ils votaient quand il y a eu des élections. Ils votaient massivement pour Bachar el-Assad, d'ailleurs. Et ils voulaient revenir. Il y a eu des pourparlers. Mais à tous les coups, il y avait un semblant d'accord qui a été créé entre le Liban et la Syrie. Il y avait les Américains qui venaient, qui faisaient pression sur le Liban. Sur la Syrie, ils n'avaient plus besoin, puisqu'ils avaient... Il y avait un embargo, un blocus. Donc, quand c'est en Turquie, le Turc... Il a beau crier la misère, c'est lui qui les a créés. Parce qu'en envahissant tout le Nord, souvent, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas eu le choix, ils ne pouvaient plus passer la ligne de front, et donc, fallait qu'ils sont partis en Turquie. D'autre part, plein de gens qui avaient plus ou moins, qui auraient pu avoir des sympathies pour des musulmans, après tout, ils auraient dit, pourquoi pas, je vais me réfugier en Turquie, c'est la Turquie n'est pas en guerre, puisqu'elle fait la guerre. On ne peut pas tout faire à la fois. Alors donc, globalement, c'était plus ambigu et Erdogan, manifestement, s'en est servi tout le temps comme une masse de manœuvre contre l'Europe. Je lance ma masse d'immigrants sur la Méditerranée, peu importe qu'ils se noient, qu'ils y aillent à pied, à cheval, en voiture par vol d'oiseau. Ça, je m'en fiche. Mais en tout cas, voilà, c'était une masse de manœuvre pour servir de chantage dans le jeu de bascule qui est joué entre les États-Unis et éventuellement la Russie. Après, ceux qui partaient pour le Nouveau Monde, ceux qui partaient pour l'Amérique, pour les États-Unis, c'est-à-dire, là, je crois que c'est adieu. Hein, je pense que, jamais, à mon avis, ils ne reviendront pas. Hein. Là, ils sont vraiment partis pour chercher une nouvelle vie. Mais ils avaient en commun, en même temps, l'émigration, qu'elle soit proche ou lointaine, disons, l'émigration lointaine, ils pouvaient quand même envoyer, il y en a peut-être qui envoient des soutiens encore à leur famille, tant qu'il y avait une possibilité d'envoyer des soutiens. Quand ils étaient proches, c'était plus facile, puisque c'était par voie terrestre. Mais petit à petit, toutes les frontières se sont fermées. Ils n'ont même plus pu, disons, assumer ce rôle-là. Le retour des réfugiés, c'est toujours un sujet qui est un sujet controversé. Alors bon, maintenant, par conséquent... Toute cette question des réfugiés et des exilés, je crois qu'aussi que ça s'est doublé d'un pillage généralisé, les Américains volent, ont volé systématiquement depuis qu'ils sont intervenus dans le nord syrien. Ils ont volé tout le pétrole. Ils volent tout le pétrole journellement. Parce que la rive est de l'Euphrate, c'est la région vitale économiquement. C'est là qu'il y a tout le pétrole, il y a du gaz, mais surtout du pétrole pour l'instant. Le gaz, il est là sous terre, on verra quand la paix sera revenue. Mais après, il y a les ressources en eau, c'est quand même l'Euphrate qui passe là, c'est pas rien. Le barrage El-Assad pour l'irrigation, il y a toutes les zones agricoles. C'est une bonne partie de la richesse agricole se tient dans cette région-là. Et elle est systématiquement volée et pillée par les troupes américaines. Et quand c'est pas les troupes américaines, c'est par les Turcs, par les Kurdes. Et les Kurdes qui jouent le rôle de proxy, enfin de proxène, voilà, pour les Américains. Et qui se comportent de façon déloyale. Ils ont été favorisés, ils ont tiré parti du désarroi, disons, de l'État syrien pendant une longue période et de la situation, parce qu'ils ont été tentés par des moyens. Ils savent que si la situation se normalise, ils n'auront pas d'autre soutien. Ils n'ont pas envie de devenir turc. C'est exclu, d'ailleurs, devenir turc pour des Kurdes. Ça serait comme, oui, ça serait quand même un peu gros et fort de gaffe. Mais je pense que c'est pas ça qu'ils ambitionnent. Je crois qu'ils n'ambitionnent même pas d'être, parce qu'ils savent bien que leur présence et leurs ambitions sont illégitimes. Et donc, quand une situation normale sera rétablie, ce qui va arriver, eh bien, ils savent bien qu'ils n'auront pas d'autre solution que de retourner à l'État syrien qui leur a jamais fermé la porte. Jamais. Il n'y a jamais eu de maudire les Kurdes, parce que les Kurdes, il y en a beaucoup. On dit qu'il y en a d'origine, on disait que sur une population, je ne sais pas, de 24 millions d'habitants en Turquie, avant la guerre, à peu près 23 à 24 millions d'habitants. Il y a eu des réfugiés, puis il y a eu des déplacés. Alors il y a eu 8 ou 9 millions de déplacés sur le territoire syrien, d'un endroit à l'autre. Donc ils ne sont pas réfugiés à l'étranger, mais ils sont sur le territoire syrien et leur sort ne vaut guère mieux. Ils ont été déracinés de chez eux quand même. Et là, on pense qu'il y a 8 millions, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait 8 millions. Globalement, sur les 24 millions, il y a bien la moitié de la population qui est ou réfugiée à l'extérieur, ou bien déplacée sur le territoire. Alors c'est vrai que leur statut ne revient pas au même, parce que les déplacés peuvent se déplacer encore dans le territoire. Mais ils ne sont pas en situation normale. Ils ont dû, c'est comme les Français, à la Deuxième Guerre mondiale, hein, ceux qui passaient du nord au sud, ou du bon. Alors donc, toute cette situation donc se double du pillage généralisé, pas seulement d'ailleurs dans la rive est de l'Euphrate, mais un peu partout où ils avaient accès, toutes les zones boisées, parce qu'il y a, comme on n'imagine peut-être pas toujours, mais il y a plein de plantations d'arbres, il y a plein d'espaces boisés dans le nord de la Syrie, et ça brûlait un peu trop fréquemment pour que ça ne soit pas criminel. En réalité, je pense, les récoltes notamment, toutes les récoltes systématiquement, ont été pillés, le pétrole donc vendu, pas un seul bar. Le gouvernement syrien n'a donc plus de ressources et plus de moyens, ni de payer des subventions, ni de faire de la gratuité. Il peut encore rendre gratuit des choses comme ça qu'il maintient à bout de bras, comme les hôpitaux, qui quelques-uns recommencent à fonctionner, puis parce que les Syriens sont un peuple ingénieux, puis qu'ils réussissent, et puis qu'ils reçoivent du soutien familial de quelques-uns, de ceux qui sont au Liban, qui sont à l'extérieur, qui leur envoient des fonds. Mais encore, c'est de plus en plus acrobatique, puisque c'est de verrouiller. Il y a toujours les fameux trains de sanctions qui continuent, des mesures coercitives, qui sont donc criminelles, illégales, contraires au droit international, et qui sont, je dirais, de nature génocidaire. Ça a été le terme utilisé par des gens des proches du système des Nations Unies. Il y a eu un rapport, une rapporteuse des Nations Unies qui est passée à Paris il y a quelque temps. On l'a vu, qui a écrit un livre d'ailleurs sur les sanctions coercitives, les sanctions, le blocus, l'embargo, toutes les mesures coercitives imposées par l'Occident à la Syrie. Et elle écrit ses conclusions, etc. Elle dit que ce sont des mesures. Alors on va dire, oui, mais le hasard, je pense, a voulu, elle est biélorusse. Alors effectivement, on va dire, mais enfin, il n'empêche, elle est quand même rapporteure des Nations Unies pour la question des droits d'homme, mais sur la question des sanctions, elle a écrit un ouvrage comme ça, et tout un rapport qui est détaillé, et elle a été sur le terrain, ainsi de suite. De même que J'ai oublié de le dire, qu'au début, c'est pas sauté immédiatement à la guerre, le gouvernement syrien n'était pas du tout opposé à une situation, à une solution politique. Il y a eu un processus, comme on dit, c'est le processus de Genève, qui a connu son point culminant dès le début des événements, c'est-à-dire c'était en 2012. Il y a eu, sous couvert du Conseil de sécurité, il y a eu un dialogue politique. Et à l'époque, le gouvernement syrien n'a jamais mis en prison tous les opposants. Il y a des gens qui sont y compris revenus et ils ont vaqué tout à fait librement à leurs occupations. Ils ont participé au dialogue. D'ailleurs, c'est un groupe qui existe. Il y a eu après le processus de Sochi, le processus d'Astana, parrainé par les Russes. Il y a eu plusieurs processus, plusieurs vagues de processus qui prenaient le relais des Nations Unies. Parce que qui dit Nations Unies, ça disait États-Unis. Et donc, tout le règlement sous les égides des Nations Unies, c'était favorable, disons, aux thèses américaines et donc aux thèses des djihadistes et aux thèses de l'opposition syrienne faussement démocratique. Alors que les Russes ont toujours privilégié, donc laissé libre toutes les voies, mais en privilégiant, en soutenant d'emblée la souveraineté du gouvernement syrien et son droit unique à exercer la souveraineté sur les territoires syriens. Et le principe de non-ingérence, etc., etc. Alors donc, le processus, donc au début, il y a eu un... Mais tous ces gens étaient des gens vendus. On notera qu'il y avait beaucoup des chefs de l'opposition qui avaient l'honneur d'être dans la douce France, dans la patrie des Lumières. On se souviendra, il y avait... Il y a l'Égérie, Basma Kodmani, qui vient de mourir qui vient de mourir. Je ne dis pas qu'il y a une juste. Non, je ne dirais pas. C'est méchant. Mais enfin bon. Non, elle a une sœur qui est complètement zinzin, qui s'appelle Ala Kodmani, qui écrit dans Libération. Alors, je ne sais pas qu'elle est libérée, mais elle est folle, je crois. Et Basma Kodmani était une. Enfin bref, il était réfugié en France. Alors que tous ses opposants, il y avait aussi celui, l'homme à la pipe, là, Burhan Ralioun. On disait l'homme à la pipe, je ne sais pas s'il fumait la pipe, mais c'était un opposant qui était professeur d'université. Mais il y en avait plein. Il y a eu Manaf Tlas, qui était un ami personnel de Bachar el-Assad, qui avait trouvé refuge ici. Ils allaient tous trouver asile dans le giron de Rifat el-Assad, le frère. Mon maudit de Bachar el-Assad. Et donc, tous ces gens, où ils avaient la double nationalité, où ils vivaient en France depuis, ils n'avaient pas fichu les pieds en Syrie depuis des lustres, et ils prônaient le renversement du régime, qui était le régime massacreur, et celui qui gazait son peuple. Alors j'ai oublié, ce sera le point, puis peut-être que pour l'instant, je vais après, je ne sais pas comme vous voyez les choses. Bon, parce qu'il y a eu aussi toutes les affaires chimiques qui servaient d'armes de chantage. Alors toutes les affaires chimiques de gaz, comme par hasard, c'était tout à fait improbable, puisque au début, dans les rapports, il y a eu un rapport qui avait été organisé, une mission commune de la Ligue arabe et de l'Organisation des Nations Unies qui avait été envoyée sur le terrain en Syrie au début de la guerre, disons au tournant fin 2011, début 2012. Elle devait faire rapport sur la situation exacte des forces sur le terrain. L'un des membres... Le directeur de cette délégation, qui était multinationale, c'était un général soudanais, son nom m'échappe pour l'instant, mais c'était un général soudanais, de l'armée soudanaise. Et deuxièmement, il y avait un Tunisien que je connais bien, qui est un ami, qui s'appelle Ahmed Manaï, qui est le directeur de l'Institut français, de l'Institut, par exemple, l'ITRI, l'Institut tunisien des relations internationales. Ahmed Manaï, qui est un ancien, un islamiste qui a changé de conviction, qui est un ardent nationaliste tunisien, qui était un homme objectif, qui est un homme honnête. Est un homme d'ailleurs d'un certain âge, même d'un âge certain, qui a une longue expérience et qui est un patriote tunisien. Et il avait fait partie de la délégation. Ça avait été un peu l'un des maîtres, des piliers de cette délégation, qui était donc arabo-onusienne. Et le rapport ne plaisait pas à ces messieurs de l'ONU. Donc il a été à la corbeille à papier. Parce que le rapport, il disait nettement que la responsabilité, ben non, qu'ils n'avaient rien vu qui était spécifiquement de la responsabilité de Bachar el-Assad, ni du gouvernement, ni de son armée, ni de l'administration syrienne, ni du régime syrien, que finalement, il y avait beaucoup de responsabilités qui manifestement étaient du fait de l'opposition, qui refusait ceci, qui refusait cela, qui avait des exigences qui étaient incompatibles avec la souveraineté d'un État, avec le droit de non-ingérence. Il n'avait que des revendications qui étaient inspirées de l'étranger. Alors donc, c'était... Et donc, comme il disait ça, le rapport est passé à la corbeille à papier et a toujours été ignoré. Après, on a passé à l'échelon supérieur. Et donc, du point de vue des rapports, on va organiser des fameuses... Il y avait les armes chimiques. Alors c'est là qu'est née une histoire compliquée et rabiscotée. Donc la première attaque a eu lieu, je crois qu'il y en a eu plusieurs. Hein. Il y a eu l'attaque de Douma, mais il y a eu une attaque dans le nord syrien. Il y en a eu deux ou trois des opérations. Alors c'était des attaques au gaz, soi-disant. Alors, il y avait ce spectacle, des opérations à grand spectacle. Est très efficace puisqu'il y avait une attaque au gaz avec le gaz sarin. Moi, j'y connais pas beaucoup, j'en ai jamais fabriqué ni consommé. Donc, mais c'était le gaz sarin, je le sais, on dit que c'est mortel, et ça, je veux bien le croire. Et donc, mais seulement, il avait la spécificité de que les victimes semblaient intactes, notamment quand c'était des enfants. Elles étaient intactes, elles étaient bien bichonnées, et que ceux qui venaient les réanimer, qui étaient les fameux casques blancs, une ONG de bonne volonté, en fait, qui était le faux-né d'une organisation d'Al-Qaïda, quand même, et c'est, qui se sont fait jusqu'à maintenant, qui passent pour être des gens très honnêtes, une ONG qui a failli avoir le prix Nobel de la paix, elle aussi, parce que toutes les fripouilles ont le prix Nobel de la paix, donc pourquoi pas eux. Et donc, quand on faisait remarquer que ceux qui sauvaient, c'était des casques blancs, non parce qu'ils portaient un casque blanc en signe de paix, mais c'était des djihadistes reconvertis, et qui venaient soigner, mais des victimes de gaz, eux, ils soignaient sans masque. Ils n'avaient pas le Covid, ni rien du tout. C'était « je ne crains pas Dieu, je ne veux rien du tout. » Et il avait le nez dessus, et il était en train de... Puis on vous dit « mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gosses ?» Le seul problème, c'est qu'ils ne bougeaient plus. Alors ça, ils étaient vraiment morts. Mais c'était certainement, probablement pas, en tout cas, c'était... A priori, ce n'était pas des victimes du gaz, parce qu'ils n'avaient pas une polio, ils avaient l'air ni d'avoir été torturés, ni rien du tout. Ils étaient comme ça, limpides, bien propres, bien propres sur eux-mêmes, avant d'être changés d'ailleurs. Et puis les gens qui les soignaient avaient l'air parfaitement sereins, comme s'ils avaient été en train de manger un beefsteak, hein, ni plus ni moins, ou en train de veiller, de veiller leur grand-oncle. C'est exactement la même chose, ils étaient comme ça, tout à fait indifférents, mais avec une dignité outragée. Évidemment, la dignité était toujours outragée. Et donc voilà. Et ils ont entrepris, sous la direction et la houlette d'un type qui se faisait passer le maire d'Alep, élu par qui, j'en sais rien, mais pas par moi en tout cas, et pas par les Alépins surtout, ce qui n'est pas, c'était un faux maire, enfin, mais il pouvait se faire passer pour n'importe qui, n'importe quoi. Et donc il a été reçu, en tout cas, puisqu'il disait qu'il était révolutionnaire, entre guillemets, il a été reçu comme sous le titre dont il se prévalait, donc on l'a reçu comme étant le maire d'Alep. En fait, ce n'était pas possible d'être le maire d'Alep, parce que déjà, il y avait Alep Est et Alep Ouest. C'était comme au temps de la guerre froide, au summum de la guerre, il y avait Alep Est qui était sous contrôle des djihadistes, quoi. Et Alep Ouest, la majeure partie de la ville, qui n'était pas du tout traitée par les médias, mais qui regroupait la majeure partie de la ville, des gens qui s'étaient réfugiés à Walet pour échapper aux révolutionnaires et pour se mettre sous les zones sous contrôle du gouvernement. Bon. Mais il n'empêche que toute cette délégation des casques blancs est partie. Elle a été aux États-Unis, mais elle est allée en Angleterre, mais elle est venue en France où elle a été reçue royalement. Elle a été reçue, je crois, par les leaders parlementaires, par des ministres, etc. Mais comme le bon Dieu. Bon. Et je crois qu'ils sont revenus plus tard, récemment, là, et ils sont toujours aussi, ils ont la même dignité. Ils ont failli avoir le prix Nobel, mais ils ont eu le prix des droits de l'homme aux États-Unis, je crois. Je l'ai écrit quelque part, peut-être bien ici, c'est bien possible. Mais en tout cas, bon, après on revient là sous l'image de Douma. Il y avait l'histoire de Douma qui devait être la dernière en date. Oui. Mais en fait, qu'avait raté. Et donc, il y avait des accords de conciliation, de réconciliation. Et là, donc, il y avait ceux qui déposaient les armes et qui reprenaient tranquillement leurs activités s'ils n'avaient pas de crime de sang sur les mains. Et les autres, ils étaient libres de réembarquer dans des bus avec, soi-disant, sans leurs armes ou pas d'armes lourdes. Alors, évidemment, ils n'allaient pas prendre des chars d'assaut avec eux. Alors, ils avaient quelques armes légères, mais enfin, quand même, ça dépend ce qu'on entend par armes légères. Et donc, ils ont été tous se réfugier à Idlib. Donc, Idlib, c'est un nid de djihadistes pas repentis et qui sont très dangereux. Mais, bon, au moins, ils étaient concentrés. On savait où les trouver. Il n'y en avait pas partout. Alors, en réalité, la situation est quand même insaisissable, à la fois parce que ce n'est plus une guerre militaire. Alors, les tentatives qu'on voit, il y a des tentatives actuellement pour réallumer les hostilités dans le sud, dans la région limitrophe du Golan syrien, annexée par Israël. Et c'est la région, il y a une région qui est peuplée de Druzes. Donc les Druzes, bon, c'est des dissidents du chiisme, ça fait des dissidents, mais étant plus ou moins considérés et traités comme des musulmans en tout cas. Mais ils sont syriens, ils ont fourni beaucoup de gens à la résistance syrienne du côté du gouvernement, mais il y en a qui ont pris parti pour les Israéliens parce qu'ils ont de la famille de l'autre côté, notamment du côté du Golan occupé. Alors, ils sont séparés. Il y a ceux qui sont syriens et pro-syriens pour leur nation d'origine et leur pays d'origine. Et puis, ceux qui, sous la pression des événements, ont choisi de travailler avec ce qui est l'ennemi. Hein, bon. Et donc, alors là, je pense qu'on doit faire, ça doit être les Américains qui lancent ça, qui relancent la partie. C'est parmi leur dernière cartouche. Alors, mais on remet, ça ratait déjà, mais on peut essayer. Alors, on rallume le front là, on rallume le front dans le nord, il y a des tentatives. Mais alors au sud, ça mobilise la Jordanie. Alors, le roi de Jordanie, il n'est pas très très clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a quand même une ascendance anglo-saxonne. Enfin, c'est son épouse qui est... Je me demande si lui n'est pas d'ailleurs... De père ou de mère britannique, je crois bien, oui. Et donc, tous les souverains jordaniens, depuis les Hachémites, ont une fâcheuse tendance à être dans le giron de la Grande-Bretagne. Et là, le roi de Jordanie est un petit peu. Quand ça chauffe, il demande des contacts avec Bachar el-Assad, et quand ça chauffe pas, il cède aux instances de ses amis et de ses parrains. C'est ce qui s'est passé là. Mais. En fait, c'est pas consistant, c'est pas raisonné. Il n'y aura pas d'autre sujet que de se rallier à la voix du plus fort. Alors, la voix du plus fort, c'est pas la Jordanie, ni c'est l'Occident. Donc, c'est bon, le camp de la résistance, le camp de, comme je dis toujours, dans l'époque actuelle. La situation se résume ainsi. J'ai peut-être oublié des points, mais enfin, bon, je ne sais pas. Tel que ça figure à peu près dans cet ouvrage. Il y a d'une part une guerre civile, il y a une guerre militaire, une guerre qui a été politiquement et militairement gagnée par la Syrie, sans conteste, et pour moi il n'y aura jamais de retour en arrière. Donc le territoire syrien a été libéré de l'occupation étrangère, mais pas en totalité. Il reste donc la région d'Idlib et une bande là où la Turquie cherche encore à établir une zone de sécurité. Et puis après, il y a toute la rive est de l'Euphrate, où c'est le centre vital pour un renouveau de l'économie syrienne et se tirer d'affaires sans un recours aux exportations, aux importations. Donc, il y a un intérêt des Américains à empêcher cette voie-là, c'est-à-dire que les Syriens n'ont pas de pétrole, ont du mal à avoir des récoltes, que c'est pillé, qu'on a laissé incendier. Et aux yeux et aux vues de tout le monde, ils ne se cachent même pas. Puisque quand on est Américain, on peut tout faire aux yeux de tout le monde. Et que ça n'a pas d'importance que tous les gens devinent. C'est gros comme une montagne, mais plus c'est gros, je pense qu'ils disent, plus c'est gros et plus c'est bête, et plus ils nous croient. Enfin, quand le « il », c'est nous. Enfin, bon, je pense. Et donc, c'est ça le problème. Alors... Donc, militairement et politiquement, moi, je crois que donc, la partie, c'est la fin de partie, vraiment. Et il n'y aura pas de retour en arrière. L'équilibre du monde qui sert de toile de fond à tout ça. Alors, ça servait déjà de toile de fond au début de la guerre. C'était déjà le commencement d'un affrontement entre la Russie, la Chine, puis après l'Iran, et puis après d'autres, sous couvert des organisations créées depuis Moscou, depuis Pékin, entre les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Union eurasiatique, la communauté eurasienne, ou je ne sais trop, enfin, tout ce tissu d'alliances et d'organisations, je crois, était le prélude. Ça s'est organisé, ça s'est structuré, et donc maintenant ça a pris la forme que l'on sait. Donc il y a bien un bloc, moi j'appelle ça un bloc eurasien. C'est pas un bloc en sens qui voudrait se substituer au bloc. Il y a un bloc occidental, très nettement. C'est l'OTAN, les États-Unis, les pays de l'OTAN, c'est-à-dire l'Europe, et l'Europe qui s'étend, qui s'étend de plus en plus, qui s'étend sur toute l'Europe de l'Est. Bon. Et ça, et puis avec quelques rigolos, enfin, c'est pas des rigolos, mais des États c'est pas des États fantoches, mais c'est des alliés fantoches, des alliés opportunistes, comme le Japon, dont on comprend pas très bien les motivations, qui est une grande puissance, qui trouve le moyen d'organiser un sommet du G, je sais plus combien, du G7, à Hiroshima, sans mentionner, et au moment de l'anniversaire des bombardements d'Hiroshima. J'ai fait un article qui s'appelle Hiroshima, justement. J'avais fait avant un article réécrire l'histoire. Bon, mais c'est moi, bon, j'y suis pour rien dans Hiroshima, ni dans le, bon, mais quand même, je suis scandalisé, proprement scandalisé. C'est ce qui arrive. Bon, le Japon trouve, je ne l'ai pas marqué dans mon article parce que je ne l'avais pas noté, dans les mêmes jours, il y a un sommet du G7 à Tokyo, donc c'est une audience favorite, hein. Ne même pas rappeler Hiroshima, la victime de nos compatriotes japonais. Il y a quand même 300 000 morts comme entre Hiroshima et Nagasaki. Bon, sans compter les blessés et les millions de gosses qui ont été... Oui, ça doit être le méchant Poutine, certainement. Mais c'est comme ça. Alors donc finalement, il y a le Japon. Qui dit le Japon dit l'ineffable Corée du Sud. C'est pour punir le méchant coréen du Nord. Ils ont les mêmes restaurants, mais c'est la seule chose qu'ils ont en commun pour l'instant. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tous les compères anglais, les frères anglo-saxons. Ah ben oui, au départ, bien évidemment, il y a tous le Canada, le croupion francophone ne sert pas à grand-chose en réalité, mais il y a la majorité anglophone. Mais s'il n'y avait pas le Québec, moi je me suis occupé du dossier du Canada au Quai d'Orsay il y a bien longtemps, mais ça n'a pas changé. Je pense que s'il n'y avait pas le Québec, le Canada n'aurait aucune raison de ne pas devenir une partie des États-Unis, en fait. Hein. Parce que ça donnerait une demi-douzaine d'États supplémentaires. Il y aurait 56 étoiles. Il serrerait un peu sur le drapeau. Puis ça y est. Oui, c'est ça. Ça serait un peu plus grand, un peu plus... Et puis un peu plus... Enfin, vous voyez un peu plus tout ce que je veux dire. Moi, quoi, c'est ça. Et quelques ressources en plus. Bon. Alors, donc, c'est ça. Et donc, il y a ça... Et puis les Japonais, ils ont l'habitude de subir les avanies sans protester. Je pense qu'au temps de l'apartheid, la minorité de l'apartheid, la minorité blanche, avait fait une exception pour donner plein droit aux Japonais, qui était qualifié de blanc d'honneur, de blanc honoraire, oui,
comme l'Allemagne.
Comme l'Allemagne. Je trouve que c'est exquis. Il faut pas avoir faut avoir ravalé son amour propre pour accepter de tels arguments. Non, mais c'est vrai. Mais bon. Alors donc il y a l'Occident d'un côté. Ça c'est un bloc. Et on peut dire un bloc de bêtises en même temps. C'est pas qu'un bloc de bêtises, c'est un bloc de malveillance, d'arrogance, un bloc hégémonique, et c'est lui qui a dirigé l'ordre du monde. Et moi je dis toujours, il a régi le monde et régenté le monde, pas seulement depuis 10 ans, depuis les printemps arabes, pas seulement depuis la chute de l'Union soviétique ou le mur de Berlin en 89, pas seulement depuis Sykes-Picot ou je sais pas quoi, le début de la colonisation, mais depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Depuis l'expansion de l'Europe, qui s'est plus sentie j'ose pas dire quoi, mais disons, non mais c'est vrai, l'Occident progressivement a pris possession du monde et en a fait sa chose, même si on dit toujours, on rappelle toujours des chiffres quand même, que probablement qu'au XVIe siècle, la première puissance mondiale, c'était pas l'Europe, contrairement à ce que pensent les Européens, c'était la Chine, et puis qu'après il y a eu l'Inde, à un moment donné, on se demande si c'était pas la première puissance mondiale le siècle suivant, mais en fait c'était pas l'Europe, en tout cas. Alors, sans conteste, bon, c'est vrai que depuis la Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre, mais très vite les États-Unis, je crois qu'on dit que c'était la première puissance économique mondiale dès la Première Guerre mondiale, on le dit. Même en 1800, c'est ça, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et donc, on le dit. Mais donc, c'est pour ça que les gens ne bronchaient pas. Mais même au temps de la guerre froide, disons, le monde fonctionnait mieux que maintenant. Ah, il y avait du moins. Même pendant la guerre froide, au moins, on savait s'arranger quand il y avait comme la crise des fusées, la crise de Cuba. C'est là qu'on a mis le téléphone rouge. Il y avait des questions de dire qu'il ne faut pas aller. Bon.
Il y avait des barrières.
Oui, il y avait des barrières. Il y avait des barrières. Alors, du coup, d'après, avec ce cornichon de non, il ne faut pas dire ça, de Gorbatchev. Mais moi je pense, en tout cas, c'est un dirigeant félon, parce que comment ça, perestroïka et sa glasnost, hein, bon, c'est au rang des accessoires. Moi, j'étais en poste, je me rappelle, on nous bassinait de la glasnost et de la perestroïka. Moi, à l'époque, je ne sais pas ce que j'en pensais, si j'en pensais quelque chose, mais en tout cas, je me disais, c'est un peu lourdin, gars, quand même. Je me demandais ce qu'il bricolait exactement. On voit ce qui bricolait. Non, mais c'est vrai que c'est... Alors, du point de vue des Ukrainiens, quand ils étaient au sein de l'Union soviétique, leurs prestations, moi, je constate, il y a quand même trois Ukrainiens de choix. Il y a eu Khrouchtchev. Ouais. C'est lui qui a donné l'Ukraine, qui a donné la Crimée à l'Ukraine. D'abord, l'URSS avait quand même eu la grandeur d'âme de donner comme un siège séparé. Il y avait l'Union soviétique pour chapeauter le tout. Alors évidemment, l'Union soviétique était sûre d'elle. Elle ne pensait pas un jour qu'elle pouvait disparaître. Mais il y avait les trois sièges de la Biélorussie et de l'Ukraine, les trois Russies. Il y avait une logique, mais de trois sièges, c'est beau. Bien. Mais Khrouchtchev, pour la Crimée, et quand même, parce qu'il avait le sens de l'humour, c'est un rigolo, Khrouchtchev, il l'avait donné à l'occasion du 300e anniversaire du rattachement de l'Ukraine à l'Empire tsariste. Alors non pas à l'URSS, mais à l'Empire tsariste. C'est ça ce qu'on dit, et je crois que la date correspondait à... Bon. Alors... Et ensuite, le troisième, on a dit Khrouchtchev, il y a eu Brejnev, qui était ukrainien, parce que j'enquête sur leurs identités. Et il y en a eu un troisième, Gorbatchev, qui était au moins de mère ukrainienne, si pas totalement. Hein. Mais il était moitié ukrainien. Alors les trois... alors Gorbatchev, c'est vraiment le pompon, j'allais dire, parce que Khrouchtchev... Il n'y a rien à en dire. Moi, je n'ai rien à en dire de spécial. Ce n'est pas mon rôle. Mais après, l'autre non plus. Brejnev non plus. Il est un peu rigide du collier. Mais Gorbatchev, c'est incompréhensible hein, quand même. Enfin, il y en avait un qui l'avait qualifié de dirigeant félon. Mais je pense que c'est vrai.
C'est incompréhensible qu'à la lumière de la réussite de la stratégie fixée en 1948, c'est-à-dire abattre l'Union soviétique en la pourrissant par la tête.
Ah oui.
Comme le poisson.
Ah oui, oui. Ah oui.
Le poisson pays, ça se conquiert par ses élites. Les États-Unis oui. ne conquièrent les pays que par les
que par élites. Les élites, oui, c'est vrai.
Ah le reste oui. ne les intéresse pas. Et c'est clair que cette conquête a commencé, elle avait commencé avant d'ailleurs, mais elle a été systématisée, codifiée dans le cadre de la CIA par le tandem, enfin confiée au tandem George Kennan et Frank Wisner,
oui.
qui ont été chargés d'assurer la destruction, non pas seulement de la zone d'influence soviétique, mais de l'URSS.
De l'URSS elle-même, oui.
Notamment par cette tactique ou cette stratégie qui consistait à chercher... Tout ce qui pouvait être un état de tout ce qui pouvait favoriser une division de l'État, sachant que les élites, ça se conquiert plus facilement que les peuples.
C'est vrai.
Et qu'il est plus tentant pour un intellectuel qui, en Union soviétique, jouissait d'un grand prestige, mais ne disposait pas d'un salaire supérieur à celui d'un mineur, il est tentant, bien sûr. S'en aller vers le bien-être universel, ce qui n'était pas le cas de l'Union soviétique, qui devait se remettre d'une guerre dont on ne connaît pas l'équivalent, tout de même, avec
30 millions de morts. Oui, absolument.
Et bien entendu, tout ceci a été un facteur complètement ignoré, puisque triomphe chez nous l'idée d'une espèce de régime atroce qui a passé son temps à trucider sa population, à la génocider ici ou là, etc. Donc on est dans un processus. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, je trouve, qu'interviennent qu'il y ait des interventions montrant dans toutes les zones du monde comment l'empire global a procédé. Parce qu'il est très difficile dans la conjoncture idéologique où nous sommes depuis des décennies et qui s'est considérablement intensifiée dans la période récente et notamment depuis la guerre d'Ukraine, il est impossible à quelqu'un qui fonctionne dans ce cadre, d'accepter un autre récit. Or ce récit est faux.
Oui, ce récit est faux, absolument.
Ce récit est faux que le récit sur Bachar el-Assad. J'ai été très frappée. Je suis allée l'an dernier visiter cette partie de la Turquie qui a été victime des tremblements de terre, de tous ces monuments fabuleux dont certains remontent à plusieurs milliers de siècles avant Jésus-Christ. J'ai rencontré là une dame d'origine libanaise, une dame très privilégiée d'ailleurs, dont le mari, après une carrière extrêmement brillante, s'était installé en Suisse. Il s'agissait de gens riches, privilégiés, etc. Il se trouve qu'elle avait des liens importants avec la Syrie et le Liban, et qu'elle m'a dit, mais enfin, c'est fou, les manifestations... La population était indignée, elle voyait surgir des gens qu'elle n'avait jamais vus.
Oui, oui, oui.
Ce qu'on nous a appelé l'armée syrienne libre,
les
djihadistes, c'était des éléments venus de l'extérieur.
Oui, bien sûr.
Et ça confirme au fond ce qui est vrai de toutes les fausses guerres civiles, j'allais dire, depuis la Révolution française, c'est que depuis la Révolution française, les privilégiés... quand ils ont des ennuis avec leur population, ont la chance de pouvoir faire appel
à l'étranger.
À l'étranger.
Oui, c'est ça. Oui. Ah ben absolument. Ça, c'est net dans le cadre de la guerre sioniste, c'était ça. Voilà.
Bon, ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé finalement en Russie soviétique,
oui. Hein,
où on n'avait pas fait couler une goutte de sang avec la prise du palais d'hiver. Et si c'est ce qui s'est déroulé depuis lors, sans cesse. Tant qu'il existe un ensemble puissant de classes dirigeantes, j'allais dire non expulsées, elles sont en mesure de venir rendre service dans les pays, aux classes chassées ou amoindries des pays qui ont décidé leur sort autrement.
Je pense que dans le système, ce qu'il faut noter aussi, moi je suis d'accord à tout ce que vous dites là, mais je pense que, il est à noter que, disons, la partie adverse, celle qui s'oppose au bloc hégémonique qu'on appelle donc l'Occident collectif.
L'Occident collectif. Oui.
Voilà. Et je pense que la partie adverse, alors c'est vrai que ce n'est pas un bloc. Il y a un bloc eurasien quand même au départ, parce que qui s'est organisé de façon plus serrée, la Russie, la Chine, puis il y a l'Iran peut-être,
bien sûr,
mais qui qui pilote tout un ensemble qui est bien plus vaste que ça, qui n'est pas un bloc, lui, et qui, d'ailleurs, ne prétend pas du tout constituer un bloc, qui prenne la place du bloc occidental, mais c'est ce sud global donc, qui est remorqué, si je puis dire, par le bloc eurasien, mais c'est le sud global qui se nourrit de toutes les rébellions collectives et individuelles de par le vaste monde contre le dit Occident. Alors, et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et je pense que l'un des succès, par exemple, des BRICS, tel qu'on s'est dégagé au dernier sommet, et dans l'idéologie, le système que proposent les BRICS, c'est pas un bloc donc, qui serait uniforme avec des États, c'est un monde multipolaire, disons, et qui respecte, disons, des États, civilisations, mais ou des blocs d'États ou des groupes d'États, mais en tout cas qui sont... qui restent autonomes et indépendants, qui choisissent leur régime, qui choisissent leur façon de faire, leur stratégie, leurs amis, à condition que ça ne porte pas atteinte à la cohésion comme dans l'ensemble. C'est un exercice d'équilibre qui est compliqué. C'est vrai qu'on peut être curieux de savoir comment les BRICS, jusqu'à présent, ça fonctionne bien, mais comment il faut que ça soit manié avec précaution quand même, parce qu'autrement, quand on voit les nouveaux venus, je trouve que c'est très intelligent. Par exemple, parce que d'avoir admis l'Arabie Saoudite, par exemple, parce que le monde arabo-musulman, de mon point de vue, c'est un monde, c'est une partie clé hein, de l'affaire. Pas seulement la Syrie, mais tout ce que moi j'appelle la ceinture verte arabo-musulmane, le grand Moyen-Orient de George W. Bush, ou bien les routes de la soie, d'ailleurs de Pékin, qui correspondent grosso modo, ça navigue dans les mêmes, ça couvre à peu près la même ambiance. Mais vu au vu de l'un vu de Pékin, l'autre vu de Washington et l'autre vu de nulle part, je ne sais pas où. Mais disons, je pense que le monde arabo-musulman me semble la partie qui hésite le plus. Parce qu'ils ont une longue tradition, enfin beaucoup des pays les plus, notamment les plus prospères, pétrole oblige, ils ont des relations proches avec les États-Unis et avec l'Occident. Qui est leur client pétrolier et qui, disons, c'est la condition de l'alliance. Si cette alliance pétrolière ou cet accord pétrolier, le dollar, la sécurité, l'approvisionnement, etc., si ça ne joue plus, il n'y a plus tellement de base à cette alliance. Mais enfin, c'est comme ça. Puis il y a une paresse des élites. C'est leur tradition. On se retourne vers l'Occident. Même en Russie, je dis, le néoconservatisme, par exemple, outre ses attaches avec l'impérialisme, le colonialisme, le sionisme, mais il a aussi le poids de toute une tradition à lui. C'est-à-dire que les élites, notamment dans les pays arabes et musulmans, dans les élites africaines, c'est en train de s'écrouler très très vite avec ce qui se passe actuellement. Oui. La France en essuyant les plâtres de ça. Mais je pense que pour le reste, disons dans le monde arabo-musulman, c'est l'Occident globalement. Et le Sud collectif, je crois que si on prend la partie arabo-musulmane, c'est celle qui est la plus incertaine dans son évolution, où on voit qu'il y a des hésitations. Chaque pays doit, dans le grand basculement géopolitique, chaque pays doit choisir son camp, ou même chaque groupe de pays doit choisir son camp. On sent qu'il y a des groupes de pays ou des pays qui ont du mal à le choisir. C'est dans le monde arabo-musulman. On voit bien l'Arabie Saoudite hésite. Alors d'une part, oui, et puis d'autre part, il prend des précautions. Enfin, je pense que ça doit, c'est encore pas net. La Turquie, on voit bien, parce qu'elle a à la fois un flirt avec la Russie, et elle veut pas d'ennui avec la Russie, qui est l'ennemi héréditaire, mais non plus, elle hésite à lâcher l'OTAN, c'est comme la plus grande base de l'OTAN et la deuxième armée de l'OTAN. Elle hésite à lâcher les États-Unis, etc., etc., même vis-à-vis de la Syrie, etc. Elle a dit, il y a des ambitions propres de la Turquie. Ou alors, je pense même à l'Égypte, a longtemps hésité. Depuis Anwar el-Sadat, ça a été quand même la traîtresse à la cause arabe, quand même, complètement. Et depuis, ils ne s'en sont jamais remis. Et même le président actuel, c'est quand même un homme des Américains. Il a remplacé effectivement un président islamiste qui avait été élu plus ou moins légalement, peut-être moins légalement que plus, mais par les frères musulmans. Mais il n'a pas fait long feu, en tout cas. Il était sans doute pas l'un des plus rusés. Et donc il a été balayé et il a été remplacé par ce LCC, qui n'est pas bête, mais c'est un produit pur des universités militaires américaines. Et donc il ne peut pas dire non à l'Amérique, et on sent qu'il hésite, qu'il doit bien voir que l'avenir de l'Égypte, ce n'est pas du côté de l'Occident, il n'est pas idiot, hein. Les Égyptiens, ils ont des millénaires derrière eux aussi, hein. Parce que c'est les successeurs des anciens Égyptiens, quoi qu'on dise. Et donc, quand il pense comme... Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il ne doit pas très bien percevoir comment se débrouiller pour changer de camp. Avec la Russie, ils ont déjà fait l'expérience sous forme de l'Union soviétique. Et ils ont trahi quand même, une fois, l'Union soviétique. Parce que c'était une trahison, quand même, un peu. Et ils ont trahi la cause arabe en même temps. Bon. Alors, ça fait beaucoup de trahison. Et je pense que El-Sisi, il a plein de partisans en Égypte, parce qu'il a remis de l'ordre quand même. Et puis, bon, on voit bien qu'il hésite. Il a demandé quand même à rentrer dans les BRICS. Alors, c'est quand même un symbole, ça impose des grands... Mais l'Arabie saoudite aussi, elle a demandé. Et on ne voit pas très bien... Alors moi, ce qui m'encourage le plus, c'est que l'Arabie saoudite, je compte en fait les gestes, que je connais au moins. C'est que, d'une part... ils ont accepté de se prêter à une négociation parrainée par la Chine entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Deuxièmement, ils ont accepté de payer le pétrole, de se faire payer le pétrole en monnaie locale par l'Inde, par la Russie, par la Chine, etc. Ça, c'est un monopole du dollar. Après, je crois que... Ils ont refusé, je crois, une hausse de production que demandait Biden. Oui. Et ils ont riposté par une baisse de production. Après, ils ont encore fait une entorse, je crois, aux accords du Quincy, qui sont l'accord fondateur entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Et je crois qu'ils ont encore fait une entorse de taille. Et puis, l'insulte suprême, c'est qu'ils enlèvent, donc qu'ils retirent petit à petit leur bon du trésor américain de leur compte, et ils les remettent sur le marché. Et comme on dit, il y a des clients tout trouvés, et ce sont ces andouilles d'Européens. Ben, c'est vrai, ils peuvent trouver, on peut pas trouver, ils peuvent pas trouver sur le marché un meilleur public. Hein. Et c'est les Européens qui le récupèrent et qui l'inscrivent dans leur déficit. Mais ça, c'est autant de lèse-majesté. Et je suis pas sûr qu'il doit quand même compter ses abattis, hein, le Rabet Ben Salman, parce qu'il a pas, il va pas se faire que des amis. Alors il a libéralisé donc à outrance la société saoudienne. Hein, je crois que je le disais tout à l'heure, je vais pas répéter, mais hyper libéralisé, c'est complètement dingue d'ailleurs. Il y a sa ville fantôme là, qui est, je pense, c'est surréaliste. Je crois que l'Arabie Saoudite est surréaliste littéralement. Moi, j'ai parlé avec des gens qui étaient allés récemment d'Arabie Saoudite. Ils disent qu'on reconnaît pas l'Arabie Saoudite, notamment le point de vue des femmes. Alors c'est pas seulement une question de conduite automobile, de faire vroom vroom au volant, mais c'est la question de comment elle s'habille, se sortir, et les manifestations de la vie sociale telle qu'elle est privilégiée sous l'égide du bon Mohamed Ben Salman, qui n'est pas seulement un charcutier professionnel, puisqu'il peut mettre, au hachoir les élites, mais qui peut racketter quand même les princes de la famille royale, quand même. Il a fait récupérer je ne sais pas combien de milliards de dollars et le mettre sur les comptes de l'État. Et il a eu une déclaration en disant, qu'on me croit ou non, La révolution prochaine mondiale, ça sera notre révolution. Alors, je ne sais pas s'il parlait des Arabes ou de l'Arabie saoudite, mais il dit, et qu'on me croit, c'est mon combat. Voilà. Et moi, je lui accorde un certain degré de sincérité, de résolution. Je ne sais pas si c'est... Peut-être que si... J'arrive pas à croire que c'est de la frime complètement. Autant de provocations, quand même, il risque gros, hein.
Ça nous permet, si vous voulez bien, de conclure, en fait, parce que ce qui a présidé à ce mouvement de bascule qui est en cours et qui est encore incertain, vous faites bien d'insister, c'est quand même la résistance syrienne. C'est-à-dire, si la Syrie
avait lâché,
il n'y avait plus rien qui tenait.
Et je le rappelais hier soir, d'ailleurs, pour montrer le lien entre les deux, c'est que c'est Vladimir Poutine, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui déclaquade. Je m'en fiche. C'est ça. Mais ça, oui, c'est vrai. Tout ce que vous dites pourrait être retourné contre vous. Mais il dit, notamment, bon, Oui, la façon dont, peut-être bien que je vous l'ai déjà dit, parce que je radote avec l'âge. Parce que la façon dont sera le conflit syrien est le conflit emblématique du siècle. Oui, du siècle. La façon dont le conflit syrien pourra être réglé, disons, augure ou présage la façon dont tous les conflits du siècle à venir seront réglés. Et c'est lui qui rappelle aussi, c'est en la grande Catherine II, dont il pense se voir un peu comme le successeur intellectuel et moral et spirituel, la grande Catherine II avait dit, est-ce qu'elle elle l'a dit, la Russie a trouvé en Syrie les clés de la maison Russie. J'ai trouvé en Syrie les clés de la maison Russie.
Merveilleuse conclusion.
Alors, donc c'est ça le. Je pense, oui, c'est pas. Je me suis lancé, emporté par mon fanatisme et mon enthousiasme.
Chacun aura noté, pour qui a l'habitude de Radio Galère, que Annie Lacroix assistait à l'entretien et qu'elle a mis son point de vue en valeur pour donner de la profondeur historique à tout ça, de la longue durée. On en reparlera. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Michel Rimbaud.
Merci de m'avoir invité. J'ai oublié quand même. C'est un grave oubli. Et je ne voudrais pas que vous coupiez le micro avant de vous renouveler. Mon chaleureux merci. Et d'ailleurs, merci pour l'hospitalité à Mme Annie Lacroix-Riz.
C'était avec plaisir.
Et par son témoignage et pour ça, son complément.
Merci à tous les deux.
En attendant son interview à l'aide.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.